L'évangile de Jean n'est pas forcément le plus facile à comprendre, le plus facile à appréhender. Ou même, il peut nous entraîner dans des interprétations qui peuvent être clivantes, c'est-à-dire nous diviser les uns les autres. Le lecteur, l'auditeur, a deux solutions. Soit il entre dans son rythme, se laisse conduire par le texte, ou au contraire, il cherche à comprendre, à décortiquer, rationaliser tous les petits détails. Et dans ce cas-là, le risque est qu'il soit vite repoussé loin du sens. C'est comme si Jean écrivait pour que seuls quelques-uns comprennent. Et peut-être que c'est cela d'ailleurs, en partie. C'est d'autant plus agaçant que les mots font partie du vocabulaire courant. C'est vrai également que les phrases sont simples. Les images sont accessibles. Et voilà, le sens lui reste un peu inaccessible à la première écoute, à la première lecture. Comme une invitation à l'approfondissement, comme une invitation au travail du texte, finalement. De la même manière que le vigneron travaille dans sa vigne, il nous faut travailler au cœur du texte pour que les fruits se révèlent. Parmi les nombreux fruits que peut porter ce texte, j'ai choisi ce matin trois grappes pour vous, autour des notions d'identité, de don et de responsabilité. Libre à vous d'aller ensuite travailler le texte à votre tour, vous aussi, pour trouver et cueillir d'autres grappes. Mais avant de parler de ces fruits, il faut peut-être prendre un peu de temps pour se dire à soi-même ce que l'image de la vigne évoque et comment cette évocation entrave ou facilite au contraire peut-être l'écoute du texte. Parler de vigne et des sarments est plutôt utilisé par l'Église catholique, alors que chez les protestants, on va parler plutôt souvent du cep et des sarments. Je reviendrai dessus pour vous expliquer un peu plus. Parler de vigne peut évoquer beaucoup de choses pour vous. Des souvenirs de vacances agréables, des corvées au contraire, quand vous avez fait des vendanges éventuellement. C'est aussi bien sûr le vin, celui de la scène que nous aurions pu prendre ensemble aujourd'hui. Quand Jésus utilise cette image, elle est loin d'être neuve. Il récupère là une image déjà connue à l'époque. Dans l'Ancien Testament, la vigne représente le peuple que Dieu s'est choisi. Et les prophètes annoncent l'amour, l'attention ou la colère de Dieu avec cette image. Quand Dieu montre son amour à son peuple, il est décrit comme le vigneron amoureux, qui prend soin de la vigne, l'entoure d'un mur pour la protéger des bêtes sauvages, construit un pressoir et une tour pour veiller sur les voleurs éventuels. Mais quand Dieu est en colère, le prophète annonce que la clôture de la vigne va être renversée et que la vigne va être livrée en pâture aux animaux. Alors, poursuivant la tradition du judaïsme, Jésus va mettre en scène cette image du peuple égal vigne. Mais, par exemple, dans la parole des vignerons meurtriers, il s'agit alors de critiquer, voire d'accuser les responsables et les chefs qui ne prennent pas soin du peuple. Ou encore dans la parole des ouvriers de la 11e heure. Si cela vous rappelle quelque chose, il s'agit pour les ouvriers d'être envoyés pour travailler dans la vigne, peuple choisi par Dieu. Voilà donc une image simple, une image de la vie de tous les jours dans la Palestine du temps de Jésus, un symbole courant pour les habitués. Pourtant, quand Jésus, dans l'évangile selon Jean, tient ce long développement, il opère un véritable déplacement de sens de l'image. La vigne n'est plus le peuple que Dieu s'est choisi, la vigne devient Jésus lui-même. Dieu est le vigneron et Jésus devient la vigne. Alors notre première grappe, notre question d'identité, « Je suis la vraie vigne, c'est moi qui suis la vraie vigne. » Dans l'évangile de Jean, Jésus annonce cette fois « Je suis ». Essayez de vous souvenir. « Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis la porte. Je suis le bon berger. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et enfin, je suis la vigne, vous êtes les sarments. » Cette fois, je suis, qui devrait permettre au lecteur que nous sommes d'en savoir un peu plus, comme une définition mais qui dévoile plusieurs messages sans vraiment tout dire. Jésus dit quelque chose de notre identité, mais elle reste un peu insaisissable, comme celle de son Père. Au verset 1, « Je suis la vraie vigne ». Peut-il y avoir une fausse vie? Pourquoi Jésus est-il la vraie vigne? Alors si le peuple est la première vigne, Jésus, lui, est la vigne véritable, la vigne choisie par Dieu. C'est sa fidélité de fils choisi, unique, qui l'atteste et qu'il est vraiment la vraie vigne. Son identité, Jésus ne l'a pas arrachée, il ne l'a pas conquise, il ne l'a pas demandée. Elle lui a été donnée par son Père. Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. De la même manière, les sarments. C'est quoi les sarments? C'est un mot qu'on n'emploie plus beaucoup aujourd'hui. En fait, les sarments, ça veut dire les branches de la vigne. Ce qu'il y a entre le tronc et le fruit. Et si nous sommes les sarments, les branches du tronc qu'est le Christ, alors non seulement nous appartenons au Christ sans lequel nous ne pouvons rien faire, mais nous sommes aussi envoyés par lui dans le monde pour être les porteurs de ses fruits. Et vous voyez là le lien indissociable qu'il y a dans cet attachement à la vigne. Alors vous, moi, chacune, chacun, peut accueillir une nouvelle identité. Une nouvelle identité nous est donnée, une identité de sarment. Je suis la vigne, dit Jésus, vous êtes les sarments. Au secours, pourraient dire certains, je n'ai aucune envie, mais alors là, vraiment aucune envie d'être un sarment. Moi, un sarment, attaché, rivé à la vigne, soumise au caprice de celui qui va la couper ou ramasser la grappe. Moi, un sarment, sans liberté ni autonomie, condamné à n'être que celui qui porte le fruit sans avoir de possibilité de décider quoi que ce soit. Inacceptable. Sans compter que Jésus ajoute, tout sarment qui ne porte pas de fruit, on l'enlève. Et celui qui en porte, on l'émonte pour qu'il en porte encore plus, encore davantage. Vraiment, cette image est extrêmement pénible pour un être humain épris de liberté, d'autonomie, de libre arbitre, comme je le suis et comme vous l'êtes sans doute. Pourtant, réfléchissons deux minutes. La liberté n'est pas nécessairement incompatible avec l'attachement. Il y a le lien qui nous enferme, comme dans une prison, et puis il y a le lien qui nous unit et qui nous libère, comme dans notre famille. Le lien d'attachement qui porte du fruit. Le lien auquel le Christ nous invite, c'est un lien de vie qui ne nous prive pas de notre liberté. Être lié, mais libre. Voilà une réalité difficile à comprendre, car elle est plus à vivre qu'à comprendre. Elle est à vivre ensemble, les uns avec les autres. Il s'agit plus du lieu d'enracinement, du lieu où l'on puise sa nourriture. Deuxième grappe, le don. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Cette situation de sarment, cette condition de disciple nous est donnée. Nous n'avons pas choisi de recevoir l'Évangile. Nous n'avons pas choisi d'être rencontrés par le Christ. C'est un don qu'il nous fait. Nous ne pouvons pas nous enorgueillir non plus de cette condition de disciple qui est la nôtre. Nous n'avons pas de mérite à cela. Elle nous est donnée gratuitement. Pourquoi moi? Pourquoi vous? Cela nous échappe complètement. Sur la vigne, il y a des sarments. C'est ainsi. Plus encore, sur la vigne qui est le Christ, je vous le rappelle, les sarments sont très divers. Certains portent un peu de fruits, d'autres beaucoup, et ils sont même taillés pour en porter plus. Et puis, certains n'en portent pas. Sur la vigne qui est le Christ, certains sarments sont secs. J'avoue que ce verset est aussi difficile à accepter. Tout sarment qui en moi ne porte pas de fruits, il l'enlève. Il est fréquent d'entendre des discours religieux qui partagent le monde en deux parties. D'un côté, ceux qui suivent le Christ, et de l'autre, ceux qui ne le suivent pas. D'ailleurs, ne juge-t-on pas l'arbre à ses fruits? Alors oui, en Christ, il y a les sarments qui ne portent pas de fruits, et c'est le Père, le vigneron, qui fait le patient travail de taille. Ce petit verset est précieux. Il me redit, si cela était nécessaire, que le jugement n'est pas notre responsabilité, n'est pas notre boulot. Ce n'est pas à moi, ce n'est pas à nous de savoir qui fait bien ou pas, qui est dedans et qui est dehors, qui est juste devant Dieu et qui ne l'est pas, et même qui porte du fruit et qui n'en porte pas. Depuis quand le sarment va-t-il se mêler de couper le sarment voisin? Quelle prétention! En Christ, certains sarments sont secs, c'est comme ça. Nous n'avons pas à nous en mêler, ce n'est pas notre boulot. Quant aux sarments, à tous les sarments, quels qu'ils soient, ils ont reçu un don, l'identité de sarment, souvenez-vous. Et ce don appelle notre reconnaissance. Chaque jour, nous pouvons remercier Dieu pour les frères et les sœurs qu'il place sur notre route, qu'il a mis sur notre chemin. Ah oui, parce que bien sûr, tout autour, il y a d'autres sarments dans cette vigne. Je ne l'ai pas dit, mais c'était un peu évident. C'est un fameux don que tous ces frères et sœurs autour de nous. Certes, je ne les ai pas choisis. Certes, il arrive que nous subissions nos voisins de vigne. Pourtant, là encore, c'est un don qu'il nous faut apprendre à recevoir en rendant grâce. Quand nous sommes séparés de nos frères et de nos sœurs, nous sommes détachés du Christ. Notre qualité de sarment est donnée par Dieu et nous lui rendons grâce. Oui, nous le remercions pour tous les hommes et les femmes que Dieu appelle à se mettre au service de sa parole et qu'il nous donne la joie de rencontrer. Troisième grappe, la responsabilité. Un don qui est fait au sarment n'est toutefois pas sans contrepartie, puisqu'il est demandé de porter du fruit. Alors certes, j'ai dit que ce n'était pas notre boulot de juger les autres, mais cela ne veut pas dire que nous n'avons rien à faire. Ce fruit consiste simplement à accepter ce que le Christ fait en nous. Notre responsabilité serait alors plutôt de ne pas faire barrage, de ne pas empêcher de laisser passer l'Esprit en nous. Il y a toujours de bonnes raisons pour ne pas assumer nos responsabilités. Hein, des occupations plus prioritaires, des occupations familiales, et puis ce qui serait jugé comme raisonnable. C'est quoi être raisonnable? Est-ce que l'Évangile ne nous conduit pas à faire au contraire des choses déraisonnables? Je crois même que c'est la marque de fabrique du chrétien. Nous a-t-il pas donné, d'ailleurs, lui-même, montré la voie en donnant sa vie pour ses amis? Scandale pour les juifs et folie pour les païens. L'amour de Dieu entraîne les croyants sur des routes bizarres, inattendues, imprévues, insoupçonnées. Cette identité donnée et reçue nous invite à la responsabilité. Jésus le dit trois fois, « Demeurez en moi ». Qu'est-ce que cela peut dire, veut dire? On pourrait craindre que ce mot soit un petit peu statique, immobile. En tout cas, il ne s'agit pas d'actes héroïques. Jésus précise dans le verset suivant, celui que nous n'avons pas lu, qui est juste après, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. » Garder, c'est aussi un peu statique. Et pourtant, Jésus précise, « Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, demeure dans son amour. » La vie de Jésus est résumée dans cette phrase. Autant dire qu'il ne s'agit pas de rester passif. Garder les commandements, cela ne signifie pas les enterrer comme un trésor que l'on veut cacher pour éviter qu'il soit perdu. Mais c'est au contraire les vivre pleinement. Quitte à ce qui nous conduise là où nous ne pensions pas aller. Notre responsabilité est alors de porter beaucoup de fruits. Le verset 8 nous dit « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Alors, grande question, comment assumer notre responsabilité de disciple? Chose qui n'est pas simple. Tous ceux qui ont voyagé ont peut-être déjà vécu comme moi cette expérience très forte. Ou quand je suis en vacances, notamment dans un pays voisin chaque été, ben, j'entre parfois dans un temple, une église, loin de chez moi. J'assiste au culte, j'assiste parfois même dans une autre langue que la mienne, et puis tout d'un coup, je me sens en communion avec l'Assemblée. Je me sens tout à coup chez moi parmi ces inconnus. Le lien en Christ nous fait devenir tout à coup frères et sœurs de parfaits inconnus, d'étrangers que je ne comprends même pas. L'Église nous relie, nous lie les uns aux autres, nous relie proches et lointains, ici et ailleurs, aujourd'hui, mais aussi hier et demain. quand on affirme dans le symbole des apôtres la communion des saints. Cela ne signifie pas que tous ces hommes et ces femmes que nous rencontrons dans notre vie sont parfaits, mais que tout simplement ils ont été appelés, choisis, pour assumer une mission, effectuer un service, et qui ne sont pas dérobés devant cet appel. Chacun d'entre nous est saint, si on y réfléchit bien, c'est-à-dire choisi pour un service. Certains sont conduits à partir de chez eux pour un temps donné, pour être en solidarité avec une église. D'autres sont appelés à œuvrer là où ils habitent, dans leur métier, service de tous. Quel que soit le service auquel nous sommes appelés, il est de notre responsabilité de répondre présent et de persévérer. Persévérer comme on aurait envie de le dire aux vignerons d'aujourd'hui, dont les vignes ont beaucoup souffert du gel ces dernières semaines, rappelez-vous. On a envie de leur dire de reprendre espoir, de reconstruire, de persévérer, et qu'ils peuvent compter sur les communautés qui les entourent, et peut-être sur notre solidarité à distance, si nous le pouvons. Arrivés au terme de notre méditation, s'il faut retenir un seul message, c'est celui qui prolonge cette parabole de la vigne, le message d'un amour infini que nous avons reçu et que nous sommes appelés à transmettre, comme les fruits mûris sur les sarments. Aimez-vous les uns comme les autres, comme je vous ai aimé, nous dit-il juste après nous avoir expliqué que sa vocation était d'être comme un pied de vigne pour les branches, c'est-à-dire de porter de la sève pour aider l'autre à pousser. Et Jésus insiste, je ne suis pas le vigneron, ce n'est pas à moi de tailler la vigne, mais à Dieu lui-même et à Dieu seul. Ma vocation, nous dit-il, et donc la vôtre en vous aimant mutuellement, ce n'est pas l'amour d'Eros, c'est l'amour d'Agapé, c'est une mission plus simple. C'est simplement d'offrir un peu de sève pour que l'autre puisse se développer. C'est un petit geste, peut-être une parole, peut-être simplement une prière. L'autre peut refuser le geste. Ce serait dommage de sa part, mais c'est plus son choix, sa liberté, son problème, ou parfois, hélas, sa maladie. Jésus nous propose d'aimer ainsi, d'aimer d'agapé. Que l'amour de Dieu qui nourrit l'homme fasse de nous un être spontané, un être de spontanéité, un peu comme l'enfant qui découvre le monde sans aucun préjugé, sans aucun a priori, qui nous donne toujours cette force d'aller vers les autres et vers le monde avec une énergie renouvelée, irraisonnée et spontanée. Soyons portés par la bonne nouvelle. Ainsi Dieu est glorifié et c'est dans le commandement de l'amour vécu que le ciel touche la terre et que la joie est plénitude. Aujourd'hui, ce message est pour tout le monde malgré les difficultés que nous connaissons. Pour chacune et pour chacun, bien sûr, s'aimer les uns les autres en étant différents et avancer sur des projets communs. S'accepter, défendre ses idées, s'écouter et être solidaires les uns des autres. C'est le signe de l'amitié alimentée en permanence, renouvelée toujours par la parole. Comme nous le souhaitons pour vous, nous le souhaitons pour le monde et pour tous ici présents et pour vous tous auditeurs, comme pour tous ceux auxquels nous pensons. Amen.